Kairoua Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Oui, le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 24 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monedero.
Joyeux Noël à tous, on commence avec les titres.
En RDC, l'ancien président Joseph Kabila menace de porter plainte contre les auteurs de l'enquête Congo Hold-up. Des ONG l'y accusent d'avoir siphonné 138 millions de dollars en 5 ans.
Les Occidentaux, dont les pays appuient la force européenne Takuba, s'opposent au déploiement du groupe russe Wagner au Mali avec l'aide de Moscou.
Washington se dit prêt à engager un dialogue diplomatique avec Moscou, mais pas sans condition à propos de l'Ukraine.
Le monde se prépare à fêter un deuxième Noël assombri par la pandémie de coronavirus.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, les avocats de l'ancien président Joseph Kabila menacent de porter plainte contre les auteurs de l'enquête intitulée « Congo Hold-up » qui accuse le clan de l'ancien président Kabila de détournement de fonds publics. Les détails avec Marius Muhunga.
Suite à la violation grave intentionnelle de ses droits fondamentaux, notre client se réserve le droit de saisir incessamment les instances judiciaires compétentes tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, a déclaré maître Raphaël Nyabirungu, chef du collectif d'avocats congolais de M. Kabila. Selon lui, M. Kabila a été victime de l'acharnement de la part des médias internationaux politiquement orientés, manipulés et instrumentalisés qui ont reçu la mission d'intensifier la crise politique en RDC aux fins de maintenir les contrôles sur le sol et le sous-sol congolais. Maître Nyabirungu s'est dit étonné que les médias se soient focalisés sur un seul homme, M. Kabila, sans présenter une seule preuve, une seule transaction en son nom ou à son profit, et sans indiquer un seul compte en son nom. Vantant le patriotisme de l'ancien président Kabila, Maître Nyabirungu a indiqué que l'enquête Congo Hold-up était truffée d'insinuations malveillantes, d'une hargne rare qui met en cause l'intégrité des médias et ONG auteur de l'enquête. Les données qui accusent le clan Kabila ont été analysées par 19 médias internationaux et 5 ONG pendant 6 mois sous la coordination du réseau European Investigative Collaborations.
Au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes présumés. Au moins 5 roquettes ont été tirées depuis un lieu inconnu sur Maïdigouri, la grande ville du Nord-Est, région en proie à une insurrection djihadiste depuis 12 ans.
La capitale de l'État du Borno se préparait à la visite officielle du président Buhari. Les habitants ont imputé l'attaque à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui sévit notamment dans la région. Dans un contexte de sécurité renforcée, le président Muhammadu Buhari a inauguré plusieurs projets à Maïdougouri, dont un pont routier et un centre éducatif à l'université locale.
Les paramilitaires de la société russe Wagner ont entamé leur déploiement au Mali avec l'aide de Moscou, dénonce dans un communiqué 15 pays dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, impliqués dans la lutte anti-djihadiste et la formation des soldats dans ce pays. Nathalie Barge.
Ces pays, dont ceux engagés dans la nouvelle force Takuba, disent regretter la décision des autorités de transition maliennes d'utiliser des fonds publics pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et appellent la Russie à se comporter de manière responsable et constructive dans la région. Lundi, l'Union européenne a sanctionné le groupe Wagner et des individus et sociétés qui lui sont liés pour des actions de déstabilisation menées dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Centrafrique, et en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus mardi des propositions présentées par Moscou pour cadrer les relations entre la Russie et les Occidentaux en Europe, mais aussi pour discuter du Mali. Mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait mis en garde le Mali contre des conséquences financières si le gouvernement recrutait Wagner. Les 15 pays réaffirment toutefois leur détermination à poursuivre leur action en vue de protéger les civils et soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel, indique le communiqué.
Le Parlement libyen va se réunir lundi pour tenter de mettre en place un nouveau calendrier électoral après le report de l'élection présidentielle qui était prévue aujourd'hui. Rien ne garantit toutefois que les éventuelles décisions du Parlement qui siège à Tobrouk dans l'est de la Libye seront suivies par les autorités de Tripoli, puisqu'une rivalité tenace oppose les deux camps.
L'organisation Human Rights Watch a dénoncé jeudi la multiplication en Tunisie des poursuites judiciaires qui s'appuient sur des lois répressives contre les voix critiques du coup de force du président Kais Saied, y voyant un danger pour les libertés. Les autorités tunisiennes poursuivent des citoyens devant des tribunaux militaires et civils et les emprisonnent pour avoir critiqué publiquement le président Kais Saied et d'autres responsables, a affirmé dans un communiquer l'Organisation de défense des droits humains.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ex-président américain Donald Trump a demandé jeudi à la Cour suprême de bloquer le transfert de documents à une commission parlementaire chargée de faire la lumière sur son rôle dans l'assaut mené le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole. Les avocats du milliardaire républicain ont demandé à la plus haute juridiction des États-Unis d'annuler une décision prise début décembre par une cour d'appel fédérale qui avait rejeté sa tentative de maintenir la confidentialité des archives de la Maison-Blanche.
Les États-Unis sont prêts à engager un dialogue diplomatique avec la Russie dès le début du mois de janvier, mais pas sans condition. C'est ce qu'a fait savoir jeudi un haut responsable de la Maison-Blanche. Les précisions de John Lindon.
L'exécutif américain est prêt à négocier de manière aussi bien bilatérale que multilatérale au travers de multiples canaux, a indiqué cette source. La Maison-Blanche a toutefois souligné que ni la date ni le lieu d'une première rencontre n'avaient été fixés. La Russie a présenté il y a quelques jours deux projets de traité pour bannir tout élargissement de l'Alliance Atlantique, notamment à l'Ukraine, et mettre fin aux activités militaires occidentales à proximité des frontières russes. Il y a certains points que la Russie a soulevés et que nous pensons pouvoir discuter, et d'autres dont les Russes savent que nous ne les accepterons jamais, a toutefois précisé le haut responsable dans une première réaction à la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire général de l'OTAN ont pour leur part assuré que l'alliance militaire restait prête à mener un dialogue constructif avec la Russie.
Le régulateur américain du médicament a approuvé en urgence jeudi le traitement antiviral contre le COVID-19 développé par le laboratoire Merck, autorisant une utilisation pour les adultes présentant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie. C'est le deuxième traitement par voie orale pouvant donc être effectué à domicile, approuvé par la FDA, qui avait donné mercredi son aval à l'utilisation du traitement de Pfizer.
La flambée de nouvelles contaminations au COVID-19 s'accélère à travers le monde à la veille de Noël, notamment en Europe, où le nouveau variant Omicron déferle. La justice espagnole a autorisé l'instauration d'un couvre-feu nocturne dans la plus grande partie de la région de Catalogne afin de freiner l'explosion des cas. Après l'Espagne qui a rétabli le port du masque obligatoire à l'extérieur, la Grèce a annoncé que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l'extérieur pendant les fêtes de fin d'année.
L'Italie a interdit toute célébration publique du réveillon du nouvel an. Le port du masque redevient obligatoire en extérieur et les lieux fermés comme les cinémas. Par ailleurs, les concerts et événements en plein air sont interdits jusqu'au 31 janvier, date jusqu'à laquelle les boîtes de nuit devront rester fermées. Les 13 millions d'habitants de la ville de Xinjiang, dans le nord de la Chine, ont entamé un confinement à domicile. Les autorités voulant contenir un foyer épidémique de COVID-19 à 6 semaines des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.
New York va réduire de manière drastique le nombre de personnes autorisées à prendre place à Times Square pour le réveillon du Nouvel An, a annoncé jeudi le maire de la mégalopole américaine, une décision prise face à la flambée des contaminations au coronavirus engendrée par le variant Omicron. Dans un communiqué, Bill de Blasio a indiqué que le nombre de spectateurs traditionnellement d'environ 58 000 personnes sera abaissé à autour de 15 000.
L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, qui purge une peine de 20 ans d'emprisonnement pour corruption a été gracié, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Justice dans un contexte de campagne électorale serrée en amont de la présidentielle de mars prochain.
Première femme à avoir accédé à la présidence de la Corée du Sud en 2013, Park Geun-hye avait été destituée en 2017, une première dans le pays des suites d'un scandale ayant également débouché sur des peines de prison pour les dirigeants des deux conglomérats dont Samsung Electronics. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le gouvernement sénégalais et l'entreprise Eiffage ont signé une convention sur la concession de l'autoroute de l'avenir, actant l'entrée de l'État dans le capital de la société à 25%. Les flux nets à recevoir par l'État sont désormais estimés à 305,5 milliards de francs CFA sur la période 2021-2044, avec des évolutions progressives annuelles, a déclaré le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo. L'armateur italo-suisse MSC a proposé au groupe français Bolloré de lui racheter ses activités de logistique en Afrique pour 5,7 milliards d'euros. Bolloré a consenti à MSC une exclusivité jusqu'à fin mars 2022 pour négocier, précise le groupe dans un communiqué. La branche de logistique africaine emploie plus de 20 000 personnes sur le continent. MSC revendique une flotte de 560 navires et plus de 100 000 employés. Le Maroc envisage de renouer les relations diplomatiques avec l'Allemagne, gelées depuis mars, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Selon les chiffres officiels, l'Allemagne a importé des marchandises du Maroc pour 1,4 milliard d'euros et exporté pour 2,2 milliards d'euros en 2019. Elle est l'un des principaux donateurs bilatéraux avec un engagement total de près de 1,2 milliard d'euros en 2020.
Passe maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football aura bien lieu, je le disais hier, et à 16 jours du début de la compétition. Les sélectionneurs composent déjà leur liste de joueurs. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Le sélectionneur Vahid Ali Lodjidj a dévoilé sa liste de 28 joueurs. Les cadres Achraf Hakimi, Yassine Bounou ou encore Romain Saï sont tous présents, tout comme l'attaquant vedette En-Nesyri qui devrait finalement être rétabli à temps pour prendre part à la compétition. Deux nouveaux sont à signaler. L'ailier Abdessamad Azalzouli du FC Barcelone et le milieu offensif Azedine Ounahi, très en vue avec Angers. Sinon, on retrouve les valeurs montantes des derniers mois comme Chahi Louza et Riyad Mahé ainsi que Boufal et El Karbi. En revanche, pas d'Hakim Ziyech et de Nusser Mazraoui en froid avec le technicien franco-bosnien. Les Lions de l'Atlas affronteront le Ghana, le Gabon et les Comores dans le groupe C. Les Comores, justement, ont concocté une liste de 26 joueurs pour la grande fête du football africain. Aucune nouveauté n'est à noter sur la liste d'Amir Abdou. Le technicien comorien a fait appel à l'essentiel du groupe qui a pris part aux éliminatoires. Des cadres comme El Fadou Mohamed et Najim Abdou, aux prometteurs Yassine Bourane et Kassim Ndaouma. Les jeunes Yed Mohamed et Moussa Djonoï sont aussi retenus. Ils avaient intégré le groupe durant la préparation. Le groupe entrera en regroupement dès le 25 décembre à Jeddah en Arabie Saoudite. Le Burkina Faso a également dévoilé aujourd'hui sa liste de joueurs convoqués pour cette CAN. Le sélectionneur Kamou Malo a fait appel à sa star Bertrand Traoré qui n'a plus joué avec la sélection depuis 5 mois pour cause de blessures. Sinon, pour le reste, ce sont les mêmes qui ont pris part aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Par contre, Lassina Traoré, l'attaquant de Shakhtar Donetsk en Ukraine, est absent pour de longs mois à cause d'une blessure au genou. Les étalons affronteront le Cameroun en ouverture de cette CAN et ensuite le Cap-Vert et l'Éthiopie. Le pays hôte, le Cameroun de son côté, a livré la liste définitive de 28 joueurs. Le sélectionneur Antonio Conseil-Sao a fait confiance aux têtes d'affiche comme Eric Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, André Onana, Karl Etoko Kambi ou encore Zambo Anguissa. Christian Bassogog est aussi présent. On note aussi le retour de Clinton Ndié. L'ancien Marseillais n'est plus appelé en sélection depuis 9 mois. En revanche, manque à l'appel Paul-Georges Ntep, Arnaud Tchoum et Sacha Boué. Rendez-vous donc à partir du 9 janvier et prochain. Et puis, du basketball pour finir. La NBA avec vous Jean-Roger. Les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, la Nouvelle-Orléans l'a emporté face à Orlando 110-104. Indiana a défait Houston 118-106. Phoenix a battu Oklahoma City 113-101. Charlotte a dominé Denver 115-107. Milwaukee a pris le meilleur sur Dallas 102-95. Golden State a surclassé Memphis 113-104. Utah Jazz est venu à bout de Minnesota 128-116. Les Wizards de Washington ont enlevé la mise face aux Knicks de New York 124-117. Miami a disposé de Detroit 115-112. Atlanta a fait mieux que Philadelphie 98-96. Et San Antonio a battu les Lakers de Los Angeles 138-110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, de retour au pays après 12 ans d'exil, l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara, se dit prêt à se présenter devant la justice afin de témoigner dans l'affaire du massacre du 28 septembre. Son retour est salué par les parents des victimes de la répression sanglante qui réclament la tenue rapide d'un procès. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
À peine arrivé à Conakry, le capitaine Potchiste s'est dit prêt à répondre à la justice de son pays, lui qui est inculpé dans le massacre qui a coûté la vie à au moins 150 opposants. Pour les familles des victimes, son retour est un début d'espoir. Assmaou Diallo a perdu son fils dans le massacre du 28 septembre à Conakry.
Je pense que c'est très important. Son retour, c'est bien apprécié parce que cela fait 11 ans, il n'est pas en Guinée. Aujourd'hui, nous estimons qu'avec son retour, avec l'engagement du CNRD, avec l'engagement du colonel Mamadi Doumbouya, qui nous parle de justice, qui promet l'ouverture du procès en 2022. Donc, l'arrivée de Dadis, c'est vraiment salutaire pour nous.
Le 28 septembre 2009, des milliers de Guinéens étaient sortis pour manifester contre une éventuelle candidature à la présidentielle de Dadis Camara. Dans la capitale, ils sont nombreux à se souvenir de ce lundi noir. Au micro de VOA, on ne se fait pas prier pour réagir au retour de Dadis Camara.
C'est bien pour la Guinée parce que c'est un ancien président. Et je pense aussi que ça fait longtemps qu'il est à l'exil. L'exil, c'est jamais satisfaisant pour quelqu'un. Dadis, c'est un retour gagnant parce que, bon, suivant le journal, c'est quelqu'un qui va faire de l'unité nationale. Et puis...
Qu'il soit parti au Burkina, c'était pas une très bonne chose pour le pays. Et avec l'avènement du 28 septembre, on va connaître beaucoup de choses et on aura une idée arrêtée sur le passé.
Je trouve que le retour de Dadis est salutaire. C'est une chose qu'on espérait depuis longtemps. Ça y va de la cohésion sociale et je félicite l'acte qui a été posé par le président de la République. Ça va changer énormément de choses à partir du moment où c'est tous les fils du pays qui commencent à revenir. Et je pense que ça, c'est déjà un changement.
Moussa Dadis Camara est arrivé à Conakry quelques jours après le retour de l'ancien président de la transition Sékouba Konaté. Les nouvelles autorités de Conakry avaient autorisé des visites en Guinée aux deux anciens dirigeants de la junte au pouvoir entre 2008 et 2010, tout en précisant qu'il ne s'agit point d'entrave à la procédure judiciaire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Direction le Bénin, la lutte contre la corruption s'est intensifiée depuis le début du second quinquennat du président Patrice Talon. De nombreuses personnalités impliquées dans des scandales financiers ont été arrêtées, qu'elles se trouvent dans le camp du pouvoir ou ailleurs. L'année 2021 aura révélé de grosses malversations financières, surtout venant de fonctionnaires, plombant ainsi la volonté du gouvernement d'instaurer une bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Feuradandé.
En 2018, soit deux années après son investiture, le président de la République a donné un signal fort concernant la lutte contre la corruption à travers l'introduction au Parlement pour modification de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour Patrice Talon, pas de développement possible sans répression des malversations financière.
Les crimes économiques sont désormais imprescriptibles, sur, notamment en ce qui concerne le bien public. Alors ceux qui aujourd'hui vont échapper à cette dynamique vont répondre un jour. Je souhaite que dans notre pays, enfin, on puisse répondre de ces actes.
Mais malheureusement, la détermination du gouvernement s'est heurtée à la ténacité des fonctionnaires et acteurs politiques épinglés pour malversation financière. Aucun secteur de l'administration publique n'a échappé au scandale financier. Le peuple ayant applaudi les réformes a très tôt déchanté.
Il a dit qu'il veut gérer bien le pays. Il a commencé. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Et par-ci, par-là, c'est scandale un peu partout. Changer en haut là-bas, et puis nous, on change aussi en bas ici.
Certains Béninois sont têtus. Malgré les réformes effectuées par ce régime et véritable lutte contre cette corruption, les gens continuent encore, ils osent encore de détourner, de faire leur petit jeu. Je demanderai au gouvernement de continuer sa relâche, que tout le peuple est derrière lui.
À peine les premières arrestations effectuées que le gouvernement de Patrice Talon est accusé de faire une chasse ciblée. Pour Martin Assogba et Jean-Baptiste Elias de la société civile, c'est déjà un grand pas que des arrestations soient faites en matière de lutte contre la corruption.
Il faut que nous commençons quand même la lutte contre la corruption quelque part. Les autres gouvernements avaient fait la lutte contre la corruption de manière théorique. Si entre-temps, il a balayé chez les autres, comme certains le disent, et qu'il n'a pas balayé chez lui, mais il ne fera pas 50 ans au pouvoir, non?
Le mercredi 22 décembre 2021, un conseil des ministres l'examen d'un rapport d'inspection générale des ministères à la présidence de la République pour la période de janvier à juin 2021 a permis de constater des insuffisances relatives à la gestion du patrimoine de l'État, à la performance ainsi qu'à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Il s'agit de plusieurs milliards de francs CFA détournés par des fonctionnaires. 2022 risque d'être mouvementé en termes d'arrestation pour détournement de deniers publics. De Cotonou, Jeannette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Congo-Brazzaville, les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés pour entreprendre, faute d'accompagnement de l'État. Plusieurs start-up ferment aussitôt, presque après leur création, car les jeunes entrepreneurs doivent faire face à une flopée de taxes administratives et fiscales. Cette semaine, un jeune entrepreneur exerçant dans la restauration, asphyxié par les charges, s'est donné la mort. Les détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Deux prêts d'environ 10 millions de francs CFA à rembourser, deux mois de salaires impayés à une dizaine d'employés, les taxes multiples à verser aux services administratifs et policiers de l'État. Le jeune entrepreneur Gaëtan Zalabaka, qui s'exerçait dans la restauration, n'a pas résisté. Il s'est donné la mort. À son restaurant, l'administrateur Destin Bumba raconte le quotidien de leur start-up.
Nous avons reçu la police, nous avons reçu le service des mairies, nous avons payé l'impôt, mais vous savez, on paye l'impôt, on n'a pas même de reçu. Et vous voyez toutes ces pressions-là pour un si petit commerce qui ne marche pas. Le chiffre d'affaires a considérablement baissé, mais les charges, elles, ne baissent pas puisque les employés sont là. L'électricité, les factures viennent à des taux exorbitants.
Le cas Gaëtan Zalabaka concerne beaucoup de jeunes qui essaient d'entreprendre au Congo. Nombreux sont vite découragés et jettent l'éponge, harcelés par des taxes surdimensionnées. Alphonse Ndongo est le patron d'un restaurant.
Ouvrir un restaurant au Congo-Brazzaville relève d'un parcours de combattant. Il faut l'autorisation du ministère du Tourisme. Ça coûte 1 million de francs CFA. Vous imaginez des jeunes. Et après, il y a trop de contrôle. Vous avez la DGST qui vous contrôle, la Direction générale du commerce, la mairie centrale, la mairie d'arrondissement, la police. Bref, tous ces services qui défilent chez vous, c'est pour vous prendre de l'argent.
Les jeunes ne reçoivent rien, témoigne-t-il. L'année dernière, par exemple, 2 milliards ont été promis aux petites entreprises, mais aucun versement n'est parvenu aux start-up. Rufin Kinanga, fermier, souhaite que l'accompagnement de l'État soit plus pragmatique dans l'entrepreneuriat des jeunes.
L'agriculture ou l'élevage sans subvention est un métier à perte. Mon ferme est juste à 72 km sur la route nationale numéro 1, mais vous avez au moins 5 pointes qu'il faut payer de chaque passage de votre ferraille. Donc l'agriculture et l'élevage ont vraiment besoin de subventions pour mieux se faire.
Jeune patron dans les BTP, Karel Bilongi fait constater l'absence des banques dans l'accompagnement des entrepreneurs.
Et par exemple, si nous sommes conduits par la maison d'entreprise, où nous avons le quitus qui est comme notre garantie, par exemple le marché que le FINEAP a lancé, qui peut évaluer 30 à 40 millions, je sais que je peux soumissionner dès que j'ai gagné. Une banque m'accompagne, il me donne de l'argent, je fais. La comptabilité tenue est suivie par cette maison. Et puis nous avançons et les ouvriers travaillent, nous aussi l'entreprise. Une fois que nous atteignons l'étape de la maturité, ben voilà, on va créer des emplois et puis on sera autonome.
Contacté par la VOA pour savoir clairement ce que le gouvernement fait pour aider les jeunes entrepreneurs, le ministère des PME a souhaité ne pas se prononcer sur la question. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Noël 2021 s'annonçait comme une grande fête dans la ville palestinienne de Bethléem. Contrairement au confinement et à la fermeture de l'église de la Nativité de l'année dernière, en raison de la pandémie, cette année, les touristes et les pèlerins étaient censés revenir et injecter de l'argent dont la ville avait grand besoin. Toutefois, Omicron, le nouveau variant du Covid-19, est venu anéantir les espoirs de beaucoup. Un reportage de Linda Grastein et Ricky Rosen à Bethléem, avec le récit d'Abdourahman Dia.
Il y a quelques semaines, les Palestiniens de Bethléem ont assisté à l'illumination traditionnelle du sapin de Noël devant l'église de la Nativité. Les magasins et les hôtels attendaient avec impatience l'arrivée de milliers de touristes et de pèlerins, contrairement à Noël de l'année dernière. Mais entre-temps, Omicron a frappé. Anton Salman est le maire de Bethléem.
À cause de la pandémie, nous avons 67 hôtels fermés, plus de 120 magasins vendant des antiquités orientales et des restaurants fermés. Il y a des artisans qui ont fermé leur commerce et aussi des employés qui travaillaient dans ces secteurs qui ont arrêté. Nous parlons du grand dommage que la pandémie a infligé à Bethléem et à son économie.
Le maire de Bethléem, Anton Salman, a souligné que plus de la moitié des revenus de Bethléem provenaient du tourisme, en particulier des chrétiens qui affluent du monde entier vers la ville. Ces visiteurs internationaux sont désormais interdits d'entrer via les aéroports israéliens afin d'empêcher la propagation d'Omicron. Aujourd'hui, les quelques touristes internationaux à Bethléem sont des personnes qui vivent et travaillent déjà en Israël, rejoignant de petits groupes de chrétiens palestiniens locaux. Aries Paduga est pasteur à l'église baptiste de Chris Road à Tel Aviv.
Cette fois, c'est très calme. Je pense que nous sommes aujourd'hui le seul groupe de Tel Aviv et c'est triste de voir la situation en ce moment ici à Bethléem.
L'absence des foules habituelles de Noël est également décevante pour ceux qui prévoyaient de montrer les travaux de restauration récemment terminés dans l'église de la Nativité et qui ont duré une décennie. Khouloud Debes de la Bethléem Development Foundation.
L'église n'a pas été restaurée pendant environ 500 ans et le toit que vous voyez était en très mauvais état, l'eau tombée détruisant les belles mosaïques et le plâtre de l'église. Nous avons 1,4 million de petites pièces de mosaïques, imaginez, qui ont été nettoyées et restaurées. Ensuite, nous avons fait les peintures sur les 52 colonnes. Nous avions environ 400 experts du monde entier travaillant avec des architectes et des ouvriers palestiniens sur la restauration. Nous sommes très fiers en tant que Palestiniens d'avoir pu faire ce travail en le partageant également avec tous les croyants, toutes les personnes de foi, mais aussi avec des gens qui aiment la culture, l'histoire de l'art et qui aiment venir à Bethléem et voir l'église dans sa nouvelle gloire.
Le maire de la ville, Anton Salman, refuse de perdre espoir.
Nous sommes dans la capitale de Noël, la capitale de l'espoir, car Noël a apporté l'espoir au monde et nous vivons l'espérance avec toutes nos difficultés.
Et monsieur le maire espère que l'année prochaine, Bethléem sera remplie de pèlerins qui viendront voir l'église de la Nativité dans toute sa gloire restaurée.
myself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Voilà, joyeux Noël à tous. Ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Bion et Rosine Monezero, à la mise en onde Michel Joseph et à la technique Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée. Here we go.